Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le nom d'Hannibal Lecter est aujourd'hui associé à un personnage de fiction et même de série télé, Hannibal Lecter, à la fois psychiatre et cannibale. Mais c'est d'un autre Hannibal que Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'espère que ça ne vous étonne pas qu'on ne parle pas d'Hannibal Lecter.
Non, ça me rassure même.
Je vais vous parler du véritable Hannibal, le héros carthaginois qui, 2 siècles avant notre ère, a réussi ce fantastique exploit de traverser les Alpes avec une 50aine d'éléphants d'Afrique. Luc Marie lui consacre un ouvrage, c'est ainsi, Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome, il est avec nous dans ce studio.
Et comme chaque jour, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'un auditeur.
Oui, aujourd'hui une auditrice, la question de Louise via Facebook. Louise voudrait connaître l'origine de l'expression « rire jaune ». Pourquoi est-ce qu'on dit que j'ai ri jaune ? Eh bien, je vous le dirai tout à l'heure, pour le moment ce sont les Romains qui rient jaune. Nous rejoignons le général Hannibal à la tête de la plus effrayante des armées.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je crois que c'était l'année dernière, nous avions parlé d'Hannibal dans cette émission. Nous l'avions fait avec un historien tunisien qui remettait assez gravement en cause l'historiographie classique. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Luc Marie n'a pas le même regard sur le personnage et sur cette période. Vous savez, Hannibal est, disons-le, une des plus grandes figures de l'Antiquité. Il est beaucoup moins connu qu'Alexandre le Grand ou que Jules César, mais c'est un stratège de la même envergure, du même niveau. Il était généralissime à 25 ans, il a accompli des exploits époustouflants, il a été vainqueur de très grands affrontements, dont la célèbre bataille de Cannes. Alors quand je dis Cannes, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la ville des festivals, bien entendu. Cette bataille de Cannes a eu lieu en 211 avant Jésus-Christ. Il a même trouvé le moyen de mourir dans des conditions dramatiques. Bref, tout cela devait lui réserver une place de choix dans l'histoire. La seule chose, c'est qu'il était carthaginois, et qu'évidemment, son histoire a été écrite par des historiens grecs et romains. Et donc, évidemment, on connaît cette fameuse formule. J'ai souvent eu l'occasion de l'utiliser. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et est-ce que les vainqueurs disent toujours la vérité ? Ça, c'est une autre histoire. Qui étaient-ils ces fameux gens de Carthage, ces Carthaginois dont on parle ? Dit comme ça, le nom fait presque peur parce qu'il a l'air savant. On a des phrases toutes faites à l'esprit quand on en parle. Il faut détruire Carthage. Vous savez, c'était Caton l'Ancien qui répétait ça à la tribune du Sénat romain. Carthago delenda est. On se rappelle également les premières phrases, les premiers mots du Salammbô de Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardin d'Amilcar. En fait, quelle réalité se cache derrière ce nom mythique ? D'abord, il faut voir où ça se trouve, Carthage. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'y passer pas mal de temps dans ma jeunesse. C'est un endroit béni des dieux. On est dans le nord de la Tunisie actuelle, on n'est pas bien loin de Tunis. L'air y est sain, doux, la lumière d'une finesse inégalable, la végétation absolument magnifique, et puis surtout, le sol est saturé de vestiges archéologiques. Il faut savoir qu'à Carthage, les fûts de colonnes antiques servent de tabourets de jardin aux habitants. C'est complètement incroyable. Alors parmi tous ces vestiges, il y en a beaucoup qui sont romains bien sûr, mais une grande partie provient d'une toute autre civilisation concurrente de la romaine. Ça provient des Phéniciens. Alors pourquoi ces Phéniciens dont on sait qu'ils avaient le commerce dans la peau, ça fait penser à Astérix évidemment. Eh bien, c'est toute l'histoire de Carthage. Tout a commencé environ 1000 ans avant notre ère, au moment où les comptoirs phéniciens de l'actuelle côte syrienne et libanaise, notamment Tyr, Sidon, où ces comptoirs sont devenus si prospères, si ouverts sur le monde méditerranéen, qu'ils se sont mis à essaimer en direction de l'ouest. Vous savez, quand une région devient particulièrement puissante, riche, eh bien, la tendance à s'étendre. C'est une grande tendance dans l'histoire. Et donc, les Phéniciens ont pris leur bateau et ils sont allés s'installer. Ils ont monté des ils ont monté des comptoirs un peu partout autour de la Méditerranée. Et la colonie de Carthage, en phénicien ça vient de Carthadasht, qui veut dire la ville neuve, ce comptoir d'Afrique du Nord a été fondé aux alentours de l'an 800 avant Jésus-Christ. On avance toujours la date mythique de 814. Hier on parlait de 814 après Jésus-Christ, c'était la date de la mort de Charlemagne. Là on va beaucoup plus loin, on parle de 814 avant, bien entendu. Ce comptoir, il a prospéré dans des proportions invraisemblables, en même temps que les colonies phéniciennes de Sicile, de Sardaigne, de Corse, d'Espagne. Et là, vous voyez qu'on vient titiller la puissance montante de Rome à l'endroit même où elle veut s'installer. Carthage incarne bientôt une civilisation très avancée, avec un urbanisme incroyable, dont on a malheureusement perdu de nombreuses traces, avec une organisation politique exemplaire qui n'aurait rien à envier finalement aux fameuses cités grecques de la même époque, avec un art longtemps méprisé par les Grecs et par leurs descendants. L'art phénicien, c'était l'art barbare pour les Grecs par définition. Mais pourtant, c'est un art très brillant. Et puis aussi, il faut bien le dire, avec une religion étrange, qui n'excluait pas les sacrifices humains et notamment sur les autels de Tanit et de Baal, les meurtres rituels d'enfants. Ça évidemment quand on visite les sites archéologiques de Carthage, c'est ce que les touristes veulent voir. Où est-ce qu'on sacrifiait les bébés, hein? En fait, toute lumière connaît sa part d'ombre dans l'histoire, mais sur ce point précis, il semblerait que les anciens romains en aient rajouté un peu et qu'ils aient voulu largement noircir le tableau. Car à partir du IVe siècle, la toute nouvelle puissance romaine est entrée d'abord en Italie, en Sicile évidemment, et puis peu à peu sur l'ensemble du pourtour du bassin méditerranéen. Cette nouvelle puissance romaine est entrée en concurrence avec la puissance carthaginoise. En 264 avant Jésus-Christ, l'intervention des Romains dans les affaires de Sicile va provoquer la première guerre punique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de guerre punique? Là encore un mot qui fait peur, mais il n'y a pas de quoi. Punique, ça vient du latin poenis, c'était le terme par lequel les Romains désignaient les Carthaginois. Donc les guerres puniques, ce sont les guerres contre Carthage, tout simplement. Ce sont les Romains qui l'emportent au cours d'une bataille navale aux îles Égates. Puis les Romains parviennent à évincer les Carthaginois de Sardaigne. Vous voyez, ils se font de la place, si je puis dire. Et c'est pour compenser ce recul que le grand général Hamilcar va se lancer dans la conquête de l'Espagne, une Espagne qui notamment est riche en minerais d'argent dont les Carthaginois faisaient un grand usage, une Espagne où va lui succéder son gendre Hasdrubal qui fonde Carthagène en 227. Carthagène à partir de ce moment-là devient si vous voulez la tête de pont carthaginoise sur le continent européen dans la péninsule hispanique. Et puis ensuite c'est le fils d'Hasdrubal, c'est Hannibal qui va prendre le relais. Nous y voilà avec Hannibal. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'épopée d'Hannibal ne prend tout son sens que replacée dans ce contexte de lutte à mort entre Rome et Carthage. Il y a en Méditerranée une puissance de trop. Ils sont trop forts, ces Carthaginois. Ils sont trop forts, ces Romains. Il va falloir que l'un l'emporte sur l'autre. Le conflit transgénérationnel qui souffre s'appelle donc les guerres puniques. Alors, des guerres puniques, il y en aura trois au total. Deux principales. La première, c'est celle de Sicile, dont je vous ai parlé, et puis donc celle d'Espagne, deuxième guerre punique. Les Romains ont achevé à ce moment-là la conquête de la péninsule italique. Ils ont besoin de s'étendre outre-mer. En 219 avant notre ère, le tout jeune Hannibal, je dis tout jeune, il n'a même pas 25 ans, il se trouve donc maintenant à la tête du corps expéditionnaire carthaginois, il prend en Espagne la ville de Sagonte. Sagonte était une colonie de Marseille d'ailleurs, qui jusqu'alors avait comme protecteur la République romaine. Protectrice, devrais-je dire. C'est un motif de guerre, ça. Et d'autant plus que le Sénat de Carthage, qui a été complètement enthousiasmé par le butin que lui a envoyé Hannibal, va donner carte blanche à son jeune général. Une nouvelle guerre punique, la deuxième, va donc pouvoir commencer. Or, si vous me passez l'expression, il en veut, le jeune Hannibal. Tout jeune, à l'âge de 9 ans, son père lui avait fait jurer sur l'autel des dieux familiaux qu'il vouerait jusqu'à sa mort une haine irréductible aux Romains. Eh bien, le moment est venu pour lui de mettre tout son génie tactique et stratégique dans la balance.
sur Europe 1 un extrait de la bande originale du film Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1960. Nous retrouvons Hannibal avec vous, Franck Ferrand.
Eh oui, le bouillant Hannibal, il a maintenant 28 ans. Il est bien décidé à porter la guerre sur le sol même de l'Italie. Il va aller chercher les Romains chez eux. Pour le moment, il est donc en Espagne. Il va lui falloir franchir les Pyrénées. Alors, pendant cette musique un peu péplum, notre invité Luc-Marie me disait que j'ai présenté Hannibal comme le fils d'Asdrubal. En fait, c'était son beau-frère. Il est bien le fils d'Amilcar, lui, en fait. Hein. Voilà. Donc, il va quitter ce territoire à la tête de cette gigantesque armée. Hein. Il va quitter le territoire de l'Espagne, disons, et passer par les Pyrénées. Il faut qu'il traverse tout le sud de la Gaule, peuplé de Gaulois hostiles, il faut le dire. Il va aller trouver le Rhône et puis surtout les Alpes. Ça fait déjà ça, quand même, à vol d'oiseau, quelques 700 kilomètres. Et même au-delà des Alpes, il y aura encore le Pô, il y aura encore les Apennins à franchir, pas mal d'obstacles évidemment. Je ne sais pas si vous réalisez l'extrême difficulté d'une telle entreprise. Alors évidemment, Hannibal a préféré la qualité à la quantité. Il a réduit son armée à 50 000 hommes, ce qui quand même est beaucoup hein, pour cette époque. Mais enfin évidemment, ça n'est pas une armée absolument gigantesque, mais il faut tout de même la déplacer. Déplacer 50 000 hommes, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a toujours tendance à oublier. Vous savez, c'est facile hein, d'écrire ça dans une... ça fait une ligne sur un livre d'histoire, hein, Hannibal à la tête de 50 000 hommes. Mais il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les chauffer, ces 50 000 hommes. Vous voyez, c'est l'incroyable intendance que tout ça suppose. C'est une masse humaine invraisemblable. Et puis de plus, cette armée carthaginoise est composée d'éléments très hétéroclites. Il y a là des fantassins basques et africains, il y a des cavaliers espagnols, il y a même des numides. On va en parler tout à l'heure, évidemment, avec Luc-Marie. Sans parler des fameux frondeurs baléares, vous savez, qui projettent sur l'adversaire des lingots de plomb. J'allais oublier les éléphants, les fameux éléphants d'Afrique qui sont un peu, si l'on peut dire, les engins blindés d'Hannibal. Une quarantaine, une cinquantaine, on ne sait pas trop, de pachydermes gigantesques avec des défenses impressionnantes et dont le but, disons-le, est avant tout d'impressionner l'adversaire. Parce que quand vous avez une armée qui arrive, cette armée est hérissée de pachydermes, il ne faut pas oublier quand même que pour les Romains, c'est un peu exotique tout ça, bien entendu. Et pour les Gaulois, que dis-je. Dans les années, dans les années 220 avant notre ère, dès avril 218 précisément, donc 6 mois après la prise de Sagonte, qui a été un tel succès pour Hannibal, cette armée impressionnante se met en branle. Donc elle franchit toutes ces zones que je vous ai décrites. Elle arrive, elle franchit le Rhône aux alentours d'Arles, semble-t-il. Elle va remonter la vallée de l'Isère jusqu'aux Alpes. Là, il y a les Allobroges qui l'attendent et qui évidemment vont pas lui faire de cadeaux. Les pertes sont très lourdes pour les Carthaginois. D'ailleurs, Hannibal a besoin de se reposer, si je puis dire, pendant un moment, de se refaire. Il s'installe à Grenoble, à Cularo à l'époque. Et puis, il est dans les Alpes et c'est déjà novembre. Ce qui veut dire que les premières neiges vont causer des dégâts importants. Alors, on raconte toujours cette anecdote de Polybe qui dit... Polybe est un des grands historiens de cette affaire. On va y revenir tout à l'heure aussi parce qu'évidemment, il est un de ceux dont on conteste le plus le point de vue. Polybe raconte que les Carthaginois utilisaient du vinaigre pour élargir certains passages, hein, pour faire fondre la neige. Vous imaginez, c'est un travail d'ingénierie considérable. On finit par déboucher, quand je dis on, les Carthaginois finissent par déboucher en Italie, donc ils arrivent par le nord, vous avez bien compris. On est là en décembre 218, et ils arrivent aux environs de la Trébille, qui est un affluent du Pô. Là, deux premières légions romaines sont détruites, 30 000 Romains sont tués, et dès le printemps 217, oui, on est en, évidemment, on compte à rebours, hein, dès le printemps 217, Hannibal fait route droit au sud, et il franchit les Apennins, et il traverse l'Arno. Alors, il faut imaginer, l'Arno, c'est pas le fleuve extrêmement bien circonscrit qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'est une espèce de vaste marécage. Les éléphants s'enfoncent dans ces marécages. Il faut imaginer toutes les épidémies, etc. Les éléphants meurent pour la plupart, la quasi-totalité. Je crois qu'il en restera un ou deux, finalement. Enfin, on sait que l'éléphant d'Hannibal lui-même survivra, mais qui devait être un pachyderme absolument gigantesque, d'ailleurs. Et là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand il perd tous ses éléphants, que Hannibal est atteint d'une ophtalmite et il va perdre un œil, hein, il va devenir borgne. D'ailleurs, on l'appellera le général borgne. Il a face à lui le consul Flavinus, qui évidemment va lui opposer là encore, une résistance importante jusqu'à un certain point. On racontera tout ça tout à l'heure, je ne veux pas trop déflorer non plus l'affaire. Hannibal, lui, dans cette affaire, a perdu environ 1500 hommes. Il n'est pas très loin de Rome. À vol d'oiseau, je dirais qu'il est à 120 de nos kilomètres de Rome. Seulement, il n'a pas de matériel de siège. Il est à la tête d'une armée dont j'ai dit à quel point elle pouvait être fatiguée, pas défaite, mais bien marquée. Et il va préférer travailler autrement, obtenir des défections ponctuelles, créer des alliances, etc. Il cantonne ses troupes dans les Pouilles et il va se lancer dans une espèce de politique de guérilla. Il harcèle les Romains. Il a contre lui Quintus Fabius Maximus, celui qu'on appelle le cunctator, le temporiseur. Il essaie de menacer un certain nombre de communautés. Il essaie de couper le ravitaillement des légions romaines. Enfin, voyez, c'est cette tactique qu'on a vue adoptée, du reste, par un certain nombre des grands ennemis de Rome. Et on a forcément, nous, à l'esprit, Vercingétorix, bien entendu, beaucoup plus tard, hein, 150 ans plus tard. Or, Hannibal a besoin de ravitaillement. C'est ce qui va le conduire en direction de la mer Adriatique. Hein. Il est pas très loin au nord-ouest de Bari. C'est là qu'il arrive à Cannes. Donc c'est la Cannes dont on parlait. On est donc là au printemps 216. Deux nouveaux consuls vont remplacer à ce moment-là Fabius. L'un des deux, Varron, décide d'attaquer Hannibal, qui voit donc se profiler la confrontation. Cette fois, ça va être la puissance de Carthage contre la puissance de Rome.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous retrouvons le général Borg Hannibal à la tête de son armée avec vous, Franck Ferrand.
Eh oui, on est à la bataille de Cannes, c'est l'été 216 là. Alors on va revenir évidemment tout à l'heure sur cette bataille de Cannes, mais il faut imaginer l'ampleur évidemment du dispositif. Vous avez 40 000 Carthaginois face à 80 000 Romains. Certes, la cavalerie de Carthage est un peu plus nombreuse, 10 000 cavaliers contre 6 000. Hannibal range son armée en croissant avec une véritable faiblesse au centre. On reviendra tout à l'heure sur ce dispositif parce que c'est fondamental. Vous savez qu'il a inspiré énormément de stratèges beaucoup plus tard dans l'histoire. Hein, cette victoire magnifique, écrasante d'Hannibal sur les Romains, parce qu'alors il va n'en faire qu'une bouchée. Hein. 50 000 Romains sont tués, 15 000 sont prisonniers, pour moins de 5 000 Carthaginois morts hein, quand même. Donc c'est une victoire absolument incroyable. Et cette victoire, elle va servir de modèle à Napoléon, bien entendu, mais aussi à von Schlieffen, qui s'en réclamera ouvertement. Et mieux que ça, pendant la dernière guerre mondiale, au lendemain de la bataille de Stalingrad, le chef d'état-major du général Rokossovski va expliquer aux reporters de guerre qui sont là présents à Stalingrad que eh bien sur place, là, on a réédité l'exploit d'Hannibal. Et l'un des journalistes va écrire, un journaliste américain, « C'était bizarre d'entendre cet ancien paysan de Yaroslav évoquer la bataille de Cannes, ici en pleine steppe du Don, comme s'il s'était mis soudain à réciter du Tite-Live. » C'est vrai que c'est incroyable la postérité phénoménale de ce général et des exploits qu'il a pu accomplir. Alors en l'occurrence, au lieu de fondre sur Rome, parce que alors là vraiment on a envie de dire désormais plus rien l'en empêche, eh bien Hannibal va encore préférer reconstituer ses troupes et il décide pour des raisons disons politique de leur accorder quelques mois de répit à Capoue. Ça ne veut pas dire qu'il ménage les Romains. Hein. Il a fait notamment deux grandes corbeilles dans lesquelles il a fait mettre toutes les bagues des chevaliers, vous savez, les chevalières, en or, et il les a envoyées au Sénat avec une note méprisante. Vous imaginez les Romains tremblant devant ce personnage qui, évidemment, est plus qu'inquiétant et qui est en train de nouer des alliances avec des colonies grec notamment, c'est assez important. Il fait route au sud et on se dit, mais que fait-il? Eh bien, ce qu'il veut, c'est renouer la liaison maritime avec sa métropole. Il ne faut pas l'oublier. D'où le siège de Naples, d'ailleurs. Hein, Naples qui va résister pas mal. Fabius, à ce moment-là, en profite pour reprendre le harcèlement. Et là, coup de théâtre, Carthage va faire faux bond à Hannibal. Le Sénat, alors est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que on verra ça tout à l'heure? C'est une question que j'ai très envie de poser à Luc Marie. En tout cas, le Sénat renacle et les Romains de leur côté, qui ont rapatrié pas mal de troupes d'Espagne, interrompent le flux de métal qui avait été instauré par Hamilcar. Ça, c'est fondamental hein, parce que ça va bloquer en quelque sorte. Vous savez, l'argent à toute époque et dans toutes les circonstances, c'est toujours le nerf de la guerre. En Sicile, les Romains s'emparent de Syracuse. Cette prise de Syracuse, elle est restée dans l'histoire parce que c'est à ce moment-là qu'est mort le savant Archimède, vous savez, qui faisait ses expériences et qui n'a pas voulu obtempérer aux ordres du décurion romain. Or, Fabius convainc le Sénat romain de mettre le siège devant Capoue. C'est un moment essentiel. En 211, alors pendant ce temps-là, le temps passe, hein, vous voyez bien, en 211, Hannibal a maintenant 36 ans, si je ne m'abuse. Il va s'avancer vers Rome. Alors là, ça, c'est le moment de la confrontation suprême. Il rôde 5 jours autour des remparts. Il faut vous voir tout ce qui se passe pendant ce temps-là dans toute la péninsule italique. Capoue se rend notamment. C'est un massacre absolument terrible. Pendant 3 ans, il va y avoir une guérilla sans fin de Fabius vers le sud. Il s'emparera de Tarente en 209. Et le beau-frère d'Hannibal, Hasdrubal, accouru d'Espagne en dépit de ce qu'avait bien pu essayer Scipion, qui lui-même était de retour à Rome, voulait rejoindre Hannibal et son armée, bien entendu. Seulement, c'est un moment stratégique assez épouvantable. Hasdrubal va être tué. Et d'ailleurs, on dit que sa tête a été, vous ne l'avez pas remis ça dans votre livre, mais que sa tête avait été jetée au pied d'Hannibal. Il a été enveloppé littéralement par l'armée du consul Néron. En Espagne, Scipion est devenu le maître. Il peut convaincre le Sénat romain d'aller soigner, si l'on peut dire, le mal à la racine. Ça va être la tentative d'un débarquement en Afrique. En 204, il est enfin autorisé à partir. Avec tout ça, prend beaucoup de temps. Le Sénat se fait vraiment beaucoup prier. Or, Hannibal, lui, est rappelé par le Sénat de Carthage. Pendant le printemps, l'été 202, il prépare son armée. Ça va être la bataille de Zama. Alors, grande question, parce qu'alors là, il y a beaucoup de... On se pose de grandes questions sur cette prétendue défaite d'Hannibal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hannibal finit comme fugitif. On le retrouvera en Égypte au service du roi de Syrie Antiochus, qui était lui-même un descendant d'un général d'Alexandre. Les Romains parviennent à le cerner. Et on est alors là encore 20 ans plus tard, en 183, on trouvera Hannibal chez le roi de Bithynie qui le livre. Mais Hannibal avait prévu ce qui allait se passer et il ne va pas donner aux Romains la satisfaction de prendre possession de sa personne puisqu'il s'empoisonne à temps. Et près de 40 ans plus tard seulement, Carthage sera alors là vraiment détruite au cours d'une troisième guerre punique qui consacrera l'hégémonie de Rome sur tout ce vieux monde. Bonjour Luc Marie, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai laissé un certain nombre de questions en suspens. Il me fallait résumer toute la fin d'Hannibal, c'est-à-dire de nombreuses années en 3 minutes. Donc j'ai vraiment été très rapide. Avec vous, on va rentrer dans le détail, bien entendu.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire d'Hannibal. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Luc Marie, écrivain et historien, auteur d'Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome aux éditions L'Archipel.
Alors Luc Marie, on ne va peut-être pas reprendre toute l'épopée d'Hannibal, mais ce que j'aimerais, c'est vous poser un certain nombre de questions. J'ai dit d'abord que son armée était composite. On a des soldats qui sont de provenance très diverses.
Voilà, c'est une armée multiethnique, hein, c'est une mosaïque de peuples, parce que il faut bien savoir que les Carthaginois ne faisaient pas une confiance terrible à l'institution militaire. Ils se méfiaient.
Ce sont des commerçants avant
tout. Ce sont des commerçants, des marins, et en fait, c'est une ville de commerçants défendue par des mercenaires, donc des étrangers. Et les généraux qui commandent, en revanche, ces armées, ce sont des Carthaginois. Et ils sont élus par le peuple, d'ailleurs. Ils sont acclamés par le peuple, ratifiés par le Sénat.
Et le Sénat de Carthage.
Le Sénat de Carthage. Et d'ailleurs, un général qui perdait une bataille était automatiquement crucifié. Alors qu'à l'inverse, un général qui gagnait trop de batailles, on commençait à se méfier de lui et il préférait l'exil au retour à Carthage.
Vous voyez, oui, donc. C'est quand même compliqué comme régime.
Être élu général, c'était quand même pas ce que recherchait le commun des Carthaginois.
Il fallait être ni trop victorieux, ni évidemment perdant.
Voilà, oui. Alors, de ce côté-là, Hannibal a suscité plutôt la méfiance que la confiance au sein du Sénat de Carthage. Alors, il est vrai que c'est une armée de mercenaires, au contraire de l'armée romaine, qui, elle, est une armée de citoyens, des citoyens déterminés à défendre leur patrie, d'autant plus que c'était les citoyens les plus riches, en général, qui étaient engagés, enrôlés dans l'armée romaine. Et, en revanche, dans l'armée carthaginoise, il y avait des numides, c'est-à-dire ces cavaliers qui arrivaient à galoper sans mort et sans bride des chevaux très légers.
Et qui arrivaient du cœur de l'Afrique. Hein,
du cœur de l'Afrique, il y avait les fameux baléares, les frondeurs, les gaulois, les ibères, c'est-à-dire l'ancien nom des Espagnols. Donc, il fallait les payer.
L'armée très composite. Très composite. Au moins aussi composite que celle de Napoléon dans la fin de ses conquêtes.
Hein. À peu près, oui. Et lorsqu'ils partent de Carthagène, au mois de mai 218 avant Jésus-Christ, donc le début de la Seconde Guerre punique, ils sont 90 000.
Et dans Alors, là, ça pose une grande question. Est-ce qu'on peut savoir, et encore une fois, on en est réduit à ce que nous disent les historiens grecs et latins, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui a bien pu motiver Hannibal pour quitter l'Espagne et pour aller comme ça envahir, si je puis dire, la péninsule italique ?
Il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, Hannibal, c'est le fils d'Hamilcar.
Mm-hmm.
Il a plus réagi.
Et non pas d'Asdrubal, hein, comme j'ai
et
dit.
Et non pas d'Asdrubal, certes. C'est le fils d'Hamilcar. Et Hamilcar, il n'avait qu'une obsession. Hamilcar lui avait fait jurer à l'âge de 9 ans de venger la première guerre punique, au cours de laquelle, à l'issue de laquelle, Carthage avait perdu la Sicile. Donc, tête de pont pour envahir l'Italie. Et depuis la mort de son père, il n'avait qu'une obsession, récupérer toutes les possessions perdues à l'issue de la première guerre punique.
Et donc, vous voulez effacer cette première guerre.
Effacer en fait. Cette première guerre punique. Alors il se lance à l'aventure. La mer, à ce moment-là, était complètement verrouillée par la marine romaine. Et donc il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de surprendre, et ça c'est l'une des qualités d'Hannibal, c'est de savoir surprendre son adversaire en prenant un itinéraire, en s'engageant dans un itinéraire imprévisible. Alors, il se lance à la tête d'une grande armée en mai 218, une grande armée forte de 90 000 hommes. Il arrivera de l'autre côté des Alpes, 6 mois plus tard, c'est un long périple, 2000 kilomètres, après avoir traversé des rivières tumultueuses, des falaises à pic.
Après avoir traversé tout simplement les Alpes.
Et les Alpes à raison de 1000 morts par jour dans les Alpes quand même. Il y a des éboulements rocheux, il y a des glissements de terrain, et puis des attaques incessantes des tribus montagnardes, les Allobroges. Et grosso modo, ils sont plus que 20 000 affamés, amaigris, lorsqu'ils arrivent dans la plaine du Pô en novembre 18.
Et ça, vous répondez donc à la question qu'on se pose toujours, pourquoi être allé passer comme ça par les Alpes? Parce que le but, c'était précisément d'accomplir un exploit réputé impossible pour surprendre les Romains.
C'est parce que c'est impossible qu'il l'a fait.
Qu'il l'a fait, voilà, c'est ça.
Et il espérait aussi qu'en voyant son armée, les Gaulois cisalpins, puisque n'oublions pas qu'à l'époque, ah oui, il faudrait que je resitue aussi, qu'à l'époque, l'Italie du Nord était peuplée de Gaulois hostiles résolument à Rome, mais d'ailleurs, ils avaient menacé Rome.
Rome n'avait pas encore conquis tout à fait la péninsule.
Hein. Rome n'était qu'une puissance régionale,
c'est ça.
Une république en quête d'empire qui n'avait...
Il ne faut pas qu'on ait à l'idée la Rome impériale d'après Jésus-Christ.
C'est encore la Rome républicaine.
C'est ça, oui.
C'est deux républiques en quête d'empire.
Voilà.
Et qui n'ont qu'une obsession, la maîtrise de la Méditerranée occidentale. Donc à ce moment-là, il espérait que les Gaulois se rallient à sa cause, ce qui a été le cas après les deux premières batailles du Tessin et de la Trébie. Cela étant, il n'a jamais pu se rallier les peuples italiques de l'Italie du Sud.
Alors à la Trébie, là, les éléphants commencent à souffrir. C'est important ces éléphants parce que, disons les choses clairement, c'est grâce à eux qu'Hannibal est resté dans l'histoire. Ce qui frappe l'imagination des enfants à l'école, c'est quand on leur raconte Hannibal traversant les Alpes avec ses éléphants. Entre parenthèses, les éléphants ne sont pas morts dans les Alpes. À une époque, on cherchait absolument des squelettes d'éléphants.
C'est une image épinale. On croit que les éléphants, ils ont perdu beaucoup d'animaux dans les Alpes.
Des
bêtes de somme. Mais en fait, la plupart des éléphants sont morts dans les marais de l'Arno, les marais toscans, et quelques-uns aussi dans les Apennins, et quelques-uns à l'issue de la bataille de la Trébie. Dans les Alpes, il n'y en a qu'un ou deux qui se sont effondrés, quoi. Mais bon, La plupart des... Il avait 37 éléphants lorsqu'il est arrivé dans la plaine du Pô. Mmh. Et des éléphants garnis d'épieux au milieu du front, avec des défenses prolongées.
Des caparaçons extraordinaires.
Voilà, caparaçonnés de fer, etc. Mmh. Et barbouillés de mimium. Évidemment, ils impressionnaient l'adversaire. Cela étant, c'est pas la première fois que les Romains voyaient des éléphants. Ils en avaient vu un siècle plus tôt, ou plutôt au début du 3e siècle, avec Pyrrhus. Et au début, les Romains les confondaient avec des vaches. D'ailleurs, le premier nom qu'on a donné aux éléphants, ce sont des vaches lucaniennes. Les vaches lucaniennes, on se demandait quelles étaient ces bêtes sorties de l'enfer, tout droit de l'enfer.
Oui, elles avaient l'air tellement gigantesques.
Voilà. Ça devait être un peu... Mais lors de la grande bataille qu'a livrée Hannibal aux légions romaines, celle de Cannes dont vous parliez tout à l'heure.
Ça, c'est août 216.
En août 216, oui, le 2 août 216, il n'y avait plus aucun éléphant, à l'exception de celui d'Hannibal. Et il a vaincu donc les Romains grâce à sa seule stratégie, à sa seule tactique.
Alors avant d'en venir à la bataille de Cannes, sur laquelle évidemment il va falloir insister un peu, cette question inouïe, pourquoi Hannibal ne fonce-t-il pas directement sur Rome? On a l'impression qu'il ne veut pas s'approcher de Rome.
Ah oui, je dirais de ce côté-là que Hannibal est un Jules César qui n'a pas réussi, parce que, ou un Alexandre le Grand qui a oublié d'être un conquérant, parce que voilà, il au lendemain de la bataille de Cannes, c'est quand même 47 000 morts sur le champ de bataille, 47 000 Romains en l'espace d'une journée, y compris 6 000 Carthaginois. Enfin, c'est très peu par rapport aux Romains. Et parmi ces Romains, il y a 80 sénateurs, n'oublions pas.
Oui.
80 sénateurs.
Tous les chefs de l'armée romaine sont morts.
Pas
tous, mais beaucoup.
Commandé par deux consuls, il y a Paul Émile qui est mort sur le champ de bataille et Varron qui, lui, a réussi à s'enfuir vers Capoue. Et on se dit, à Rome, c'est la grande panique, ça y est, on vit nos dernières instants, c'est la fin du monde romain. Et bizarrement, enfin c'est pas si bizarre que cela, Hannibal renonce à Rome. Parce que son but, en allant en Italie, était moins d'anéantir Rome que d'impressionner les peuples italiens. Ce qu'il voulait, c'est que son armée se présente en libératrice des peuples italiques, et non en puissance colonisatrice de l'Italie. Il voulait pas faire de l'Italie une nouvelle province carthaginoise. Il voulait isoler Rome de façon à venger la première guerre punique, à contraindre Rome à la reddition, à contraindre Rome à la négociation, c'est-à-dire que Rome restitue tout ce qu'elle avait gagné lors de la première guerre punique, à savoir la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Voilà. Donc, humilier la puissance romaine, mais non pas l'anéantir, la réduire à une simple puissance régionale. Et que finalement, que la Méditerranée devienne un lac romain. Rome a refusé carrément la négociation. Rome a refusé de racheter les captifs. Les captifs, parce qu'il disait, avec cet argent, vous allez acheter d'autres soldats. Donc, il considérait les captifs comme des lâches. Et il ne voulait pas glorifier la lâcheté. Donc, pas question de négocier. Et Rome a même, encore, parce que Rome avait un certain... beaucoup d'habitants et une certaine réserve d'hommes, encore mobilisé 100 000 hommes, et elle a armé 8 000 esclaves. Et pour conjurer le mauvais sort, elle a même fait enterrer un couple de Gaulois sur la place du marché aux bœufs. Elle a enterré vivant un couple de Gaulois, ainsi qu'une vestale accusée d'inceste.
Ça, c'était les sacrifices.
Voilà, les sacrifices pour s'accaparer les honneurs de Dieu.
La bataille de Cannes est une victoire qui, je le disais, a eu des répercussions jusque dans le cœur du XXe siècle, puisqu'on en parlait encore au moment du siège de Stalingrad.
Oui.
Quel a été le coup de génie, en quelques mots, parce que je ne vous demande pas un cours de polémologie évidemment, mais quel a été le coup de génie d'Hannibal dans cette victoire, dans cette bataille de Cannes?
Alors, pour essayer de résumer ça en quelques mots, vous l'avez dit tout à l'heure, Hannibal en fait a usé de la ruse, comme il le faisait souvent. Il a placé ses troupes en arc de cercle, en mettant au milieu les troupes les moins aguerries.
C'est ça.
Et sur les ailes...
Le contraire de ce qu'on fait d'habitude.
Voilà,
quand même, hein.
Les cavaliers numides... Et les Gaulois, qui étaient quand
très
même
aguerris,
très déterminés, qui montraient leur poitrail, etc., leur poitrine, pour impressionner l'adversaire en hurlant. Et les Romains en face étaient quand même 80 000. Et les Romains se sont précipités vers le centre, c'est-à-dire le dispositif le plus faible des troupes puniques. Ils les ont littéralement bousculés. Ils ont cru que la victoire était acquise. À ce moment-là, les deux ailes se sont repliées sur le gros des troupes romaines et les ont taillées en pièces. Voilà, donc les ailes se sont refermées comme un étau autour de, des troupes romaines qui ont complètement été déstabilisées.
Et néanmoins, Hannibal n'en profite pas pour fondre sur Rome. Alors, la deuxième partie de l'aventure, si je puis dire, et c'est celle sur laquelle j'ai été obligé d'aller un peu vite tout à l'heure, on va y venir dans un instant, cette deuxième partie de l'aventure, elle met en cause directement l'Espagne, et puis elle va se jouer aussi en grande partie sur le sol africain.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un extrait de la marche de la victoire d'Hannibal. Le général Hannibal dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Luc Marie, écrivain, historien, auteur d'Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome aux éditions L'Archipel.
Cet Hannibal, finalement, ne va pas profiter comme il aurait pu le faire de l'incroyable victoire de Cannes en 216 avant notre ère. Comme le lui dira un de ses lieutenants, donc Maharbal, les dieux n'accordent pas tous leurs dons à un seul homme. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire.
Et oui.
Luc-Marie.
Et oui. Le rêve italien d'Hannibal, ça a duré 20 mois, pourrait-on dire, entre 218 et 216. Auparavant, il y a eu 6 mois de souffrance, 6 mois de marche. Ensuite, il y a eu 4 grandes victoires emportées aux dépens des troupes romaines. Et ensuite, après 216, on dit qu'il s'enferme dans les délices de Capoue. Certes, Capoue qui était connu pour ses vins, ses parfums, ses femmes, etc., ses bains.
Il s'est laissé amollir un peu par les plaisirs à la romaine, hein, en quelque
sorte.
Mais
pas tant que cela, parce qu'il a encore combattu, mais les troupes, les armes qu'il attendait de Carthage ne sont jamais arrivées.
Alors ça, c'est la grande affaire. C'est-à-dire qu'on présente toujours Hannibal comme l'homme vaincu par Rome, mais ce que vous nous dites, vous, dans votre livre, c'est que Hannibal est d'abord vaincu par Carthage,
voilà,
en fait
que... Carthage, non, il faut bien le dire, Hannibal a été vaincu par deux villes, Rome et Carthage.
Oui, les deux, voilà.
Voilà. Par deux villes, pourquoi Carthage? Parce qu'à Carthage, à l'époque, Carthage c'était une république bicéphale à deux têtes. Deux familles régnaient sur Carthage, la famille des Barcides, celle d'Hannibal, dont le père était Hamilcar, le grand, celui qui avait réussi à mater la révolte des mercenaires, parce qu'il y a une très grave révolte des mercenaires en l'an 238 avant notre ère. Et puis, l'autre famille, celle des Hannons, qui, elle, est pacifiste, pro-romaine, et qui, elle, a tout fait pour arrêter Hannibal après le siège de Sagonte, qui, lorsque les Romains ont déclaré la guerre dans l'enceinte même du Conseil des Anciens, a essayé d'arrêter Fabius Maximus, le futur dictateur. Et dictateur n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui.
Oui, non, bien sûr, oui.
Et cette famille des Hannons a dit, oui, mais finalement... Il n'a pas encore vaincu Rome. Rome est toujours là. Rome mobilise d'autant plus. On ne va pas. Alors ils envoient de l'aide, mais au compte-gouttes. Et pendant ce temps-là, en plus, la situation se corse. Hannibal essaie d'élargir le théâtre d'opération en se ralliant la Macédoine de Philippe V. Hein, la Macédoine, cette terre qui avait vu naître Alexandre le Grand et Philippe II. Et il essaie aussi, et alors là, les Romains également, d'un autre côté, les Romains aussi envahissent l'Espagne. C'est-à-dire qu'à partir de 210 avant notre ère, Hannibal trouve un adversaire à sa taille. Cet adversaire, c'est Scipion.
Alors ça, on a envie de dire, c'est un petit peu le Hannibal romain, lui.
Voilà, Hannibal romain.
Scipion, c'est enfin celui qui a les moyens de s'opposer réellement à Hannibal. Et d'ailleurs, il va le chercher d'abord sur son propre terrain, c'est-à-dire en Espagne.
Voilà, en Espagne. Alors, il y a deux théâtres d'opération. Pendant que les Carthaginois guerroient, vous voyez, en Italie, il y a le pendant. Eh bien, les Romains reconquièrent l'Espagne. Scipion, qui avait quand même perdu son oncle et son père, quelques années plus tôt, cerné par les cavaliers numides au nord de l'Espagne. Et Scipion va réussir à s'emparer de Carthagène, c'est-à-dire la Carthage espagnole, fondée par Hasdrubal le Beau, le gendre d'Hamilcar.
Oui.
Et il va aussi utiliser la ruse et aussi le pardon. le pardon, c'est-à-dire que les prisonniers espagnols, eh bien, ils leur redonnent la liberté pour qu'ils puissent en fait se rallier à la cause romaine, comme le faisait auparavant Hannibal avec les troupes italiennes. Et tant et si bien qu'à partir de pendant que Hannibal est coincé, pourrait-on dire, blotti en Calabre, Scipion, lui, reconquiert la Sicile, enfin, les Romains, pour le mot, les Romains reconquièrent la Sicile, et notamment, il y a le fameux siège de Syracuse, et pénètre même, débarque même en Afrique. Et en 203, Carthage est obligée de signer une trêve avec les Romains.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en 204, hein, juste avant, oui. Hannibal lui-même est reparti pour l'Afrique.
Voilà. Après 37 ans, ça faisait 37 ans qu'il n'avait pas vu l'Afrique. Parce qu'il est, après 216, il est bloqué pendant 13 ans.
En Espagne, après, voilà.
13 ans en Italie. Donc, il n'avait pas revu Carthage, il n'est même pas accueilli en héros à Carthage. Il est un peu accueilli comme comme le fossoyeur carrément de l'Empire punique. Et il va rencontrer le fameux Scipion, il va essayer d'ailleurs d'éviter la bataille, il y a la fameuse bataille de Zama. Alors là, au contraire, la bataille de Zama.
Alors voilà. Ça c'est le j'ai envie de dire c'est un peu l'objet de la polémique. Un certain nombre d'historiens tunisiens notamment remettent en cause la version romaine de la victoire de Zama.
La version romaine, c'est-à-dire évidemment, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs.
Bah oui, c'est ça, oui.
Elle a été écrite notamment par Polybe qui avait 4 ans lors de la bataille de Zama. Et par Tite-Live, qui lui est un contemporain d'Auguste, dont on fête cette année le bimillénaire de la mort. Et nous n'avons que ces textes pour parler de cette bataille de Zama, qui se situe à 160 km au sud de Carthage. Et il s'avère, d'après l'historiographie classique, que c'est une défaite mémorable pour les troupes d'Hannibal. C'est-à-dire que Scipion a été plus stratège encore qu'Hannibal, a réussi à effrayer les éléphants d'Hannibal. Et surtout, ce qui a fait le succès, pourrait-on dire, de Zama, c'est le ralliement des cavaliers numides aux Romains. Parce que les numides ont changé de camp. Les numides de Massinissa.
C'est souvent la cavalerie qui faisait la différence dans ces grandes batailles antiques.
Oui, la cavalerie, au dernier moment. Voilà. Et la cavalerie intrépide. Et c'est ce qui faisait le succès aussi des troupes puniques. Elle et l'infanterie gauloise. Et la bataille de Zama, c'est quand même le pendant de la bataille de Cannes. Il y a quand même 30 000 Carthaginois qui périssent ce jour-là, en octobre, le 18 octobre 202 avant Jésus-Christ, je crois. Et Hannibal revient donc en perdant dans la cité de Carthage, qui sera obligée de fuir 6 ans plus tard pour se réfugier. Pour se réfugier en Syrie. Enfin,
oui, après, on le verra partir de plus en plus à l'ouest. D'ailleurs, il finira en Bithynie. C'est là que les Romains vont finir par le...
Oui, mais il s'est réfugié à la cour d'Antiochos III.
Oui.
Il a encouragé Antiochos III pour qu'il reprenne cette guerre contre Rome. Il n'en avait pas fini avec les Romains pour autant. Il voulait toujours cette vengeance.
Il faut dire qu'il a été élevé dans cette idée-là. Hein. Il a été programmé petit pour être l'adversaire, l'ennemi irréductible des Romains.
Voilà. Il a toujours agi en tant que fils d'Amilcar, venger la mort de son père, venger la première guerre punique, et non pas, il a plus agi en Barcide qu'en Carthaginois. Voilà. Et toute sa vie se confond avec la guerre, avec la guerre punique. Des guerres puniques qui avaient commencé en 264, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une guerre de 100 ans avant la lettre. C'est aussi une guerre mondiale.
Oui, ça n'en finit plus, c'est ça. Oui.
C'est-à-dire que comme si nous...
Mais d'ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets, si je puis me permettre cette petite parenthèse, puisque la guerre de 100 ans dont vous parlez, c'est au moment où deux grandes puissances émergent en Europe. D'un côté, l'Angleterre, de l'autre côté, la France, et c'est à qui va prendre le pouvoir. Eh bien, de la même façon, en Méditerranée, au IIIe siècle, sont nées deux grandes puissances. D'un côté, les Carthaginois, de l'autre, les Romains. Il n'y a pas de place pour deux à chaque fois, c'est ça.
Ah,
et ces grandes guerres à répétition, que soit la guerre de 100 ans ou donc en l'occurrence les guerres puniques, elles viennent de la nécessité d'un camp de l'emporter définitivement sur l'autre.
Hein. Comme je le disais, c'est deux républiques en quête d'empire.
C'est ça.
D'empire maritime, des thalassocraties.
Ah oui.
Et par conséquent, alors là, on est de l'autre côté de la Méditerranée, la Méditerranée orientale, qui elle est plutôt l'apanage des rois séleucides, les descendants d'Alexandre le Grand.
Des généraux d'Alexandre, oui.
Voilà.
De Séleucos en l'occurrence. Hein. C'était un grand général de
Alexandre. Voilà, oui, donc la dynastie des Séleucides. Alors, il va réussir à faire en sorte qu'Antiochos reprenne le chemin de la guerre contre Rome, mais ça va être un... ça va être un échec total, notamment à la bataille de Magnésie de Sipile. Enfin, c'était en 189 avant Jésus-Christ. Et suite à cela, Hannibal va même se convertir en amiral. Il va même gagner quelques petites batailles navales, notamment contre les Rhodiens. Et puis, tout compte fait, Antiochos va le livrer aux Romains.
C'est-à-dire que son protecteur, finalement, décide de le trahir. Le livre aux Romains.
Le livre aux Romains. Il s'enfuit à Prusa. Et lorsque un commando romain s'apprête à le liquider ou à l'attraper, il décide de se suicider. Il s'empoisonne. Il avait 64 ans.
Alors, ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que finalement, l'échec d'Hannibal, parce qu'échec il y a,
on faut le dire.
Cet échec au moment où il aurait pu gagner, c'est-à-dire à la suite même de la grande victoire de Cannes en 216, cet échec, il est lié à deux choses. D'une part, à son ambition principale, qui n'était justement pas de liquider Rome, mais qui était de s'allier, nous dites-vous, avec tous ceux qui pouvaient vouloir se libérer du joug romain, en quelque sorte. Et donc, il n'a pas su prendre sa chance à ce moment-là. Et puis, d'autre part, il y a même une troisième cause. La deuxième cause, ce sont les dissensions dans la diarchie carthaginoise, c'est-à-dire que de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas, Carthage ne le soutenait pas comme elle aurait dû. Et puis, il y a quand même le problème espagnol aussi, c'est-à-dire quand même les Romains ont su couper...
Il y a le problème de l'Espagne qui intervient un peu plus tard, mais surtout, il a exalté le sentiment patriotique romain, c'est ça, surtout. Rome n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se sent menacée.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours un ennemi pour arriver à constituer, en
comme
quelque
on disait,
sorte,
une puissance. Proverbe grec qui dit pour qu'une démocratie survive, il lui faut un ennemi.
Eh oui.
Donc voilà.
C'est Jean-François Revel qui avait repris ça ensuite pour parler de la situation face à l'Union soviétique.
Vous l'avez dit aussi, il y a 5 ans plus tard, en 211, il essaie de s'emparer de Rome lorsque les Romains assiègent Capoue. Pour desserrer l'étau de Capoue, il s'avance vers Rome, de nouveau la panique totale à Rome. Et là, voilà qu'une pluie de grêle s'abat sur l'armée carthaginoise. Et suite à cette pluie de grêle, Hannibal décide de faire demi-tour.
J'ai comparé tout à l'heure Hannibal, je me suis permis de le faire, à Alexandre le Grand et à Jules César. Est-ce que c'est un général de la même trempe que ces deux-là, d'après vous?
Je disais tout à l'heure que c'est un Alexandre le Grand qui a oublié d'être un conquérant.
Oui, c'est ça, voilà.
Oui, et lui-même...
Ou un César qui a oublié d'être un politique, on pourrait dire.
César, lui se considérait, enfin il connaissait pas Jules César évidemment, puisque Jules César est né après, mais il se considérait comme le plus grand des conquérants, lui-même, après Alexandre le Grand et devant Pyrrhus, tristement oublié aujourd'hui, et que s'il avait gagné la bataille de Zama, il aurait été le plus grand. Voilà ce qu'il disait lui-même, Hannibal.
C'est d'ailleurs intéressant de voir. Alors, il était phénicien, lui, il était originaire donc de ce peuple phénicien avec ses comptoirs originaires du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, les historiens tunisiens ont tendance à vouloir faire d'Hannibal une sorte de héros national, en quelque sorte. Est-ce que c'est lié peut-être à la révolution en Tunisie? Est-ce qu'on est en train
Parce qu'aujourd'hui, Hannibal, c'est plus un personnage de légende qu'un personnage historique. On ne retient que la période de gloire, qui n'a duré que 20 mois, sur 15 ans de marche, 15 ans de guerre. Donc on veut retenir l'habile tacticien. Mais il a perdu... En fait, Hannibal, c'est quelqu'un qui a perdu un pari. Son pari, c'était de voir Rome s'affaisser, de s'agenouiller à ses pieds, et ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc c'est un pari perdu, la Seconde Guerre punique.
Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome, de Luc Maris, c'est édité aux éditions de l'Archipel. Et puis, vous m'avez apporté deux autres de vos ouvrages, Luc Maris. Et si, alors ça c'est de l'Uchronie, c'est-à-dire on revisite l'histoire.
Et si Carthage
n'avait pas été assassiné en 1963, l'histoire mondiale revue et corrigée en 20 Uchronies, c'est aux éditions de L'Opportun. Et puis alors, une autre très très grande défaite romaine, là
L'espèce
on est en
11
9
septembre
de notre ère,
romain, voilà.
Donc ça, vous avez appelé ça « Rends-moi mes légions », c'est le hurlement de Varus.
C'est sous Auguste, 3 légions romaines exterminées en 3 jours, légions 17.
Le plus grave désastre de l'armée romaine, ça c'est publié chez Larousse.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louise qui voudrait connaître l'origine de l'expression « rire jaune ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez répondrez cet après-midi, Franck, à la question de Louise qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait connaître l'origine de l'expression « rire jaune ».
Mais c'est une origine très facile à repérer dans l'histoire de la langue. C'est en 1640 qu'on a la première mention par Houdin qui écrit « Il rit jaune comme farine ». Donc là, on a l'origine de l'expression. Et puis, un siècle plus tard, Saint-Simon va la reprendre à plusieurs reprises dans ses mémoires, cette expression. Il parle, lui, de rire jaune, tout à fait dans le sens qu'on lui donne actuellement. Est-ce que ça a un lien avec les malades atteints d'hépatite ou de jaunisse? C'est toujours un peu difficile. En fait, ça a surtout un rapport avec la symbolique du jaune. Pendant très longtemps, le jaune a été considéré comme une couleur néfaste. Alors, il y a aussi un jaune positif. Pensez aux empereurs de Chine, par exemple, qui utilisent la couleur safran. Ils étaient le seul à pouvoir le faire. Mais très souvent, le jaune, c'est la couleur de la trahison, c'est la couleur de Judas, c'est la couleur de la méchanceté, de la maladie. Alors, rire jaune, eh bien, c'est rire de manière tout simplement un peu malsaine.